Hello, this is Robin Ford, and you are listening to Sweet Home Chicago on Radio 666, Devil's Radio.
Robin Ford qui sera l'invité du 29 juin dans Sweet Home Chicago. Et pour cette deuxième heure aujourd'hui, ce sera Lorenzo Sanchez, guitariste-chanteur, auteur-compositeur de blues d'origine espagnole, né en 1966. Lorenzo Sanchez a joué avec Miguel M, avec Mike Green, avec Fred Chapelier. Il mène sa carrière solo depuis le début du siècle et présente aujourd'hui un superbe quatrième album qui s'appelle Blue Avenida. Lorenzo Sanchez y chante son blues andalou, en anglais ou en spanglish, comme il dit. Dans cette interview, on évoque ses influences, notamment du côté de la slide guitar, avec Ry Cooder ou Derek Trucks, mais aussi des artistes plus rares comme Randy Garibay et également l'époque révélatrice de Woodstock avec Jimi Hendrix et Ten Years After. On y parlera aussi de Biter Smith, Miguel M, Fred Chapelier, Mike Green, Stéphane Rinaldi, Philippe Dandrimont, Lou Sanchez, Mick Tocro, Nadège Dumas, Marie Sanchez Hernandez, Sophie Louvet, Bruno Labbadie et Jérôme Cornelis. Lorenzo Sanchez est un bel artiste talentueux, sensible, humble, au chant et au jeu de guitare immédiatement reconnaissable et à l'imagination foisonnante. Vous pourrez retrouver son univers en live à Cognac Blues Passion les 5 et 6 juillet, à Saint-Jean-d'Angély le 18 juillet et à Reims le 27 juillet. Il défendra sur scène ce bel album fort original qui est Blue Avenida, dont on va découvrir de larges extraits. Voici cette interview avec Lorenzo Sanchez. Je suis au téléphone avec Lorenzo Sanchez. Bonjour Lorenzo.
Bonjour Marc.
Lorenzo Sanchez, tu es guitariste, chanteur, auteur, compositeur de blues, d'origine espagnole, né en 1966, qui officie dans l'est de la France depuis des années, basé à Chaumont, en Haute-Marne. En 1996, donc, tu as une petite trentaine d'années, tu fondes un groupe avec Miguel Moreno, Miguel M and the BBB, c'est ça?
C'est ça, ouais. On est exactement en 93 et après en 96, on y a adjoint des cuivres, une section cuivre.
Ouais. Yes. Et ça, c'était à l'époque de Brachet. C'est ça, vous étiez
ouais,
sur...
le Miguel M. Blues Band.
Et
ouais,
le Brachet Blues Band, voilà. Et puis ensuite, tu joues pendant 5 ans avec Fred Chapelier, 5 ans également avec Mike Green, et puis en parallèle sous ton nom, c'est un peu l'idée, non?
Ouais, j'ai eu le plaisir de jouer avec Fred quelques années en tant que sideman, et puis avec Mike Green aussi, en tant que guitariste lead, et voilà.
Et t'as aussi collaboré notamment avec Eric Starzan, avec Greg Slapp, avec Johan Dalgard, ouais, avec les Shaggy Dogs, t'as collaboré ouais, avec plein de gens. Et puis au fil du temps, j'ai l'impression que t'es devenu comme un espèce de véritable spécialiste de la slide guitar. C'est un peu ça, Lorenzo, non?
Ah, écoute, je ne sais pas si je suis un spécialiste, je ne sais pas ce que tu entends par spécialiste, mais...
On va dire grand adepte à ce moment-là, peut-être.
Ouais, non, mais je suis red dingue de la slide, c'est sûr. Hein.
Oui.
Je crois que, comme beaucoup de gens, quand j'ai vu Paris, Texas, la bande-son de Ry Cooder... La bande-son de Ry Cooder, là, j'ai pris une claque à l'époque. Et puis après, il y a eu tous les grands slidemen, puis aussi l'arrivée aussi de Derek Trucks. Voilà, qui m'a subjugué, quoi, comme plein de gens. Et j'adore le slide parce que on peut trouver des voix, des couleurs qui est difficile de trouver en jouant pas au slide, si tu veux.
Ouais,
quoi.
Donc, ouais.
On peut créer des tensions, on peut jouer au quart de ton, puis aller dans d'autres couleurs un peu plus extérieures au blues. Mais voilà, moi j'aime beaucoup ça et travailler sur la justesse du son et tout ça, quoi. Ouais.
Très bien. Et puis ensuite, on peut dire que ta carrière solo t'a permis de graver 4 albums sous ton nom avec Andalusia en 2003, Domingo en 2006, Amnésico Blues en 2014 et puis là, celui qui vient de sortir Blue Avenida, voilà, en 2024 en développant un style qui semble être propre, qu'on pourrait qualifier de blues andalou, tu chantes en anglais ou en spanglish, mais tu t'inspires aussi d'autres sonorités, d'autres horizons, on peut en reparler de ça parce que ça fait partie de ton univers également.
Ouais, complètement, j'ai toujours essayé de mixer en quelque sorte un peu toutes mes influences quoi, en ayant de base une solide base blues quoi, mais en pouvant justement aller vers d'autres horizons et en particulier sur le dernier album, bon, c'est un peu plus recentré blues, de toute façon assez blues et j'avais envie de me lancer aussi à chanter un peu en anglais et donc continuer à chanter certains morceaux en espagnol parce que, et aussi en spanglish, c'est-à-dire un mix des deux comme faisait, si tu te rappelles, Randy Garibay et les Chicanos, tout ça quoi.
C'est vrai.
Yo soy un pato chicano. San Antonio y antes. I'd get down on my knees for you.
C'est un mélange qui est vraiment intéressant, quoi, en fait. Voilà. C'est sûr qu'il faut comprendre un peu l'espagnol, mais c'est un mélange d'anglais, donc on arrive peut-être à s'y retrouver, mais c'est une autre couleur aussi que j'avais envie de partager avec les gens, quoi.
Oui, puis en même temps, les gens comprennent, enfin les Français comprennent peut-être davantage l'espagnol dans leur grand ensemble que l'anglais, parce que le français reste une langue latine,
ouais,
avec les mêmes,
bah,
les mêmes racines.
Tout à fait, ouais, ouais. Bah, de toute façon, on retrouve toujours des points communs, hein, dans le vocabulaire, c'est clair, de ces trois langues même, hein. Si tu veux, l'anglais et le français, il y a beaucoup de vocabulaire.
Aussi, oui, bien. Bien sûr.
Commun, hein.
D'ailleurs, il y a davantage de mots français en anglais que de mots anglais en français. Hein. Ça reste
tout à fait.
Ça reste
complètement,
vrai.
Complètement, ouais. Mmh. Ouais, ouais, ouais.
Alors Lorenzo Sanchez, est-ce que on pourrait ensemble évoquer avec les auditeurs ton initiation musicale et puis les débuts de ton parcours professionnel musicalement parlant? Comment est-ce que tu es tombé dans la marmite, en fait? C'est ça la question.
Bah, le parcours, j'ai commencé la, je suis autodidacte. Hein. J'ai commencé la guitare à l'âge de 12 ans, hein, 12-13 ans.
Ouais.
Et puis après, ce parcours un peu, quand t'es au collège, tu te rencontres un tel qui joue de la batterie, voilà, et puis on monte un petit groupe au collège, après au lycée. Et après, j'ai commencé à jouer pas mal dans ma région, en tant qu'amateur, on va dire. Et il y a un moment où, voilà, où on joue suffisamment pour se dire, bah, on va passer le cap, on va essayer de se professionnaliser, quoi, voilà, quoi.
Ça, c'est venu après, oui. Et le fait de tes prédispositions à la guitare, plus particulièrement, comment c'est arrivé? C'est un hasard ou c'est vraiment l'amour de l'instrument?
Écoute, en fait...
On va rappeler, en corollaire à la question, on va rappeler que la guitare est née en Espagne quand même. Hein.
Complètement. Ouais. Ah ouais, ouais, ça c'est sûr. Hein. Ils font des belles guitares. Hein.
C'est vrai.
Il y a des bons guitaristes. Hein. Ben, moi, en fait, c'est une de mes grandes sœurs qui prenait des cours de guitare classique et qui a abandonné. Et la guitare, elle traînait à la maison. Et voilà, j'ai commencé par jouer sur une corde, jeux interdits, quoi, si tu veux.
Oui.
Voilà, hein, ça commence par ça, quoi, en fait. Hein. Après, ça devient vraiment plus qu'un plaisir. C'est ce besoin qu'on ressent d'aller sur l'instrument tous les jours et de passer des heures et des heures. Et c'est là qu'on est heureux, quoi. Donc, je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est comme ça, quoi.
Non, mais tu l'expliques très bien parce que voilà, ça s'appelle la passion, tout simplement.
Ouais, peut-être. Ouais, ouais.
Les musiques que tu écoutais étant ado, c'était quoi?
Oh, alors là, c'est très varié parce que moi, comme je suis des années 70, on va dire, je naviguais entre les 33 tours de mes grandes sœurs qui écoutaient du Forestier, Brassens, Brel, Ferré et compagnie. J'étais aussi nourri par la musique qu'écoutaient mes parents, donc le flamenco, le boléro cubain des années 50, et aussi en troisième lieu, on va dire, avec mes deux grands frères qui écoutaient, qui avaient leur vinyle de Woodstock et de,
ah oui,
de rock, de Jimi Hendrix, etc. Quoi. Donc,
c'est,
mélange.
C'est par ça que tu es arrivé au blues par la suite alors?
Complètement, ouais, ouais, c'est d'abord la grande découverte, pour moi, le grand. Clash, c'est Woodstock, quoi.
Ouais. Hein,
j'ai souvenir d'être vraiment petit et d'ouvrir l'album et d'écouter Ten Years After, I'm Going Home. Et...
I'm Going Home by Helicopter.
I'm Going Home.
Et
là, quand j'écoutais cette guitare, je me suis dit, Hendrix, voilà, j'étais complètement fou, quoi.
Voilà, entre Alvin Lee et Hendrix, effectivement, on partage un petit peu le même coup d'électricité.
Ouais, ouais.
Et est-ce que tu écoutes toujours ces artistes-là, alors, que ce soit l'album Woodstock ou alors toutes les autres références que tu me citais, le flamenco, etc.?
En fait, tu sais, j'écoute pas beaucoup de musique, moi.
Ouais.
Donc, c'est pas volontaire, c'est. Voilà, certaines fois, j'ai peur d'être un peu trop imprégné parce que j'écoute. Voilà, c'est.
Ah, c'est marrant, c'est exactement, ouais, la même réponse que m'a faite Fred Chapelier il y a quelques semaines.
Ouais.
Ah oui, oui.
Ouais, complètement.
Vraiment.
Ouais, ouais, parce que ça m'étonne pas que Fred ait dit ça aussi, on a déjà discuté aussi. Et puis voilà, une espèce de ne pas être sous influence quelque part, quoi. Trop,
ouais,
quoi. Hein, mais se nourrir en écoutant plein de choses. Alors, le peu, entre guillemets, de musique que j'écoute, actuellement, c'est beaucoup de blues du Delta. C'est vraiment Steve James, tout ça, où j'écoute de la musique cubaine, du boléro ou du jazz. J'adore le jazz, quoi, en fait. Hein, aussi, hein,
donc c'est une palette très très large. Il y a quand même des artistes de slide guitare qui comptent à tes yeux. Tu évoquais tout à l'heure Derek Trucks, c'est le plus ancien Ray Cooder. Il y a également chez nous un garçon qui s'appelle Mick Ravassa, que tu connais.
Oh là là, oui.
Alors lui, il est bon aussi, hein.
Oh, très très bon, j'adore. C'est un super guitariste. J'aurais aimé beaucoup Mick de citer, quoi. C'est la grande classe, quoi. J'adore, ouais. Moi, il y en a plein hein, qui jouent très très bien. Il y en a plein, c'est très bien.
Les sources de des différents styles qui participent aux multiples sonorités de la musique, on a bien compris que c'était très très varié, mais en fait, ça ressort dans ce que tu produis, dans ce que tu joues, dans la musique que tu nous offres, ça ressort comme étant véritablement de Lorenzo Sanchez, même si on peut se référer à tel ou tel artiste pour faire la comparaison. C'est quand même quelque chose, moi je trouve que c'est une atmosphère unique, particulière, bien à toi, que ce soit pour assister à un concert ou être plongé dans l'un de tes albums. Comment est-ce que tu expliques la logique du son qui te caractérise, Lorenzo?
C'est très difficile pour moi d'avoir un regard là-dessus.
Tu peux pas te décentrer, c'est ça, tu es
objectif,
tellement...
Tu vois, on se nourrit, c'est un processus qui est propre à tous les musiciens, je dirais, ou les artistes, c'est-à-dire on se nourrit de tout ce qu'on, voilà, de tout ce qu'on écoute, de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on entend. Après, c'est une espèce de... Ça passe à travers moi et ça ressort comme ça, si j'ose dire, quoi. Ça serait trop trivial, tu vois ce que je veux dire.
J'ai quand même l'impression à t'écouter que tu es plus qu'un filtre, tu es un créateur.
Ah, c'est gentil, non mais moi ça me fait plaisir ce que tu me dis, parce que c'est vrai qu'en tant que musicien, ce qu'on, particulièrement peut-être en tant que soliste, que ce soit pianiste, guitariste, peu importe, ce qui est intéressant, c'est que les gens, quelque part, qui vont entendre un morceau à toi, sur quelques mesures, sont capables de t'identifier, quoi. C'est à ça que tu faisais un peu allusion.
Oui.
C'est vrai que...
Ah bah il y a un son caractéristique, Lorenzo Sanchez.
Complètement, ouais. Écoute, ça me fait plaisir. Et puis,
c'est ton univers, et on le sent et on l'entend à chaque écoute, hein, ça c'est automatique.
C'est le but, quand même, hein, quelque part. Hein, c'est
aussi, mais c'est pas donné à tout le monde.
Ah bah écoute, on fait ce qu'on peut. Hein.
Alors, on a vu ton bassiste Philippe Dandrimont participer à la première tournée française de Alexis P. Souter. Philippe Dandrimont joue régulièrement en Exercice America. D'abord, première question par rapport à ça. Est-ce que tu as eu l'occasion de la voir sur scène, Alexis P. Souter?
Non, je ne connaissais pas. Je l'ai découverte là tout récemment parce que Chris Bergson, qui est un très bon ami, qui est venu jouer la semaine dernière même, je crois.
Super.
Et j'ai regardé, c'est impressionnant.
Ah, lui aussi en slide, il est pas mauvais, hein, Chris. Hein,
ah non, mais lui,
il
fait
de la slide. Alors, mais toi-même, tu as accompagné les artistes américains sur leur tournée, ces genres de démarches qui t'est arrivé de faire?
Non, j'ai jamais eu l'opportunité. J'ai fait partager la scène avec quelques artistes qui m'ont invité. Tom Principato, Billy Price, Neil Black ou d'autres. Hein, mais je me suis jamais lancé là-dedans, quoi. Effectivement, après, c'est un exercice particulier, mais c'est vrai que ça ne me déplairait pas, hein, de toute façon.
C'est un choix que font certains artistes, mais qui n'est absolument pas incompatible avec la poursuite de sa propre carrière, de toute façon.
Ah bah complètement, je dirais même que ça, c'est un plus. Hein.
Oui,
de toute façon, on joue un autre style différent de ce que soi-même on joue.
Et puis on peut être amené à se remettre en question parfois, artistiquement.
Ah bah complètement,
ouais.
Oui, tout à fait. Et puis aussi de rencontrer d'autres musiciens et de voir jouer. Moi, je prends toujours un pied de voir, en ce qui me concerne, c'est la guitare, on va dire, hein, mais plus particulièrement, mais je prends toujours un grand plaisir à voir d'autres guitaristes que je vois jouer. Je me dis, c'est génial. Enfin, je suis pas du tout dans le côté, entre guillemets, jaloux, quoi que ce soit. Ça m'effleure même pas l'esprit.
Oui, t'es plus dans l'admiration et puis le bonheur pour quelqu'un. Prendre du plaisir à voir quelqu'un qui prend du plaisir à jouer et puis à le partager.
Ça. Hein, c'est ça, complètement.
Peut-être t'as quand même eu l'occasion de te produire dans de multiples endroits. Quelle expérience tu gardes, toi, principalement sur le plan émotionnel de certains grands souvenirs de scène, Lorenzo?
La première grande émotion que j'ai eue, c'était à l'époque de Miguel M. et The BBB, au Chesterfield Café. On avait gagné un concours national, devant plein de 300 groupes au départ, je crois. C'est à l'époque des cassettes encore, hein, donc tu vois, c'est vieux.
C'était à la fin des années 90, quoi.
Ouais, c'était en 99.
D'accord.
Au Chesterfield Café.
Ah oui, le trophée Dixie Frog,
Chesterfield. Voilà.
Ouais.
Et donc, là, c'était quand même sympa, quoi, hein, vraiment.
Et ça m'a su.
Nous a lancé après, et puis des bons souvenirs, par exemple, une première partie de Lucky Peterson à Dijon et à la vapeur, et on a avec la section cuivre, et on a joué un de ses titres, Talking to You, je crois que c'est, et c'est pointé sur le bord de la scène dans le morceau, au milieu de son repas, pour nous voir jouer le morceau.
La disparition de Lucky Peterson, ça avait vraiment été un choc. Hein.
C'est sûr, elle m'a manqué beaucoup. Hein. Et puis il y a eu d'autres rencontres aussi, je me rappelle avoir passé une soirée avec Bessel Smith. Bessel Smith, tu te rappelles? J'avais prêté mon ampli pour jouer. Le bonhomme un peu rugueux, un peu ancien boxeur, je crois. Assez impressionnant. C'est des rencontres quand même qui te marquent.
Un type du West Side qui jouait un petit peu à la Magic Sam. J'avais adoré ça aussi.
Ah, mais excellent.
Ouais.
Excellent, quoi.
Et donc, tu as eu l'occasion de le côtoyer. Ça, c'est un privilège, Lorenzo.
C'était une belle rencontre,
On va en arriver, Lorenzo Sanchez, à ton album, ton nouvel album qui s'appelle Blue Avenida. D'abord, quelle est la signification de ce titre pour toi?
Blue, pour moi, c'est donc ça faisait un peu, c'est référence au blues, quoi. De toute façon, la blue note, Et le Avenida, ça veut dire avenue. Donc, c'est pas calculé, c'est un nom qui m'est venu comme ça. J'avais envie aussi d'utiliser partie anglaise dans le nom et espagnol.
Voilà.
En référence aussi à ce qu'il y a dans l'album, en fait. Parce qu'il y a de l'anglais, de l'espagnol et du spanglish, comme je t'ai dit tout à l'heure. Mais Avenida, peut-être, parce que c'est une avenue c'est large. espèce de métaphore, peut-être une avenue où la musique a toute sa place. Et l'avenue principale, c'est le blues, et si tu veux, les trottoirs sont larges, et voilà, les bifurcations, les allées sont larges.
C'est bien ce qu'il me semblait, parce qu'en fait, le titre lui-même, Blue Avenida, ne correspond à aucun des 9 titres de l'album, donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une signification particulière. Et musicalement parlant, alors tu parlais de te recentrer blues, c'est vrai que sur cet album, il y a beaucoup de blues, et même du blues rock aussi, parce que la guitare est très présente, bien évidemment, mais elle est présente dès le début de pratiquement chaque intro de morceau. Blues, blues rock, mon cœur balance, c'est un peu l'idée, non ?
Ouais, bien sûr. Moi, j'aime les deux. Hein. J'essaie de trouver. J'avais envie de trouver un son plus rugueux sur cet album. Ouais. Donc, deux guitares plutôt qu'un clavier, hein, en quatrième musicien, et pour apporter quelque chose de plus rugueux, de plus radical dans le son, plus direct. On a enregistré quasiment tout en live et j'ai refait des guitares après, voilà. Mais...
Et du chant aussi, ou c'était le chant de départ, ça ?
Ah non, le chant, c'était le chant, je l'ai refait.
Tu l'as refait aussi ? Ouais.
Ouais, je l'ai refait, et puis je fais tous les chœurs aussi. Voilà, je voulais quelque chose d'assez rock dans le son, quoi, en tout cas.
Lorenzo, dans Blue Avenida, il y a 9 compositions. Je voudrais savoir à quel point, pour toi, c'est important de proposer ta musique, ta propre musique.
Bah, je sais pas, c'est le fait d'avoir envie de créer quelque chose, quoi. Moi, j'aime aussi, j'aime beaucoup les gens qui font que, entre guillemets, que des reprises ou qui jouent que des standards. À partir du moment où ils se l'approprient, où ils y donnent quelque chose d'eux-mêmes, quoi, un style, quelque chose d'intéressant qui ne doit pas être une simple copie d'une reprise, quoi, d'un standard. Donc, moi, si je fais ça, je le fais dans cet esprit-là. Mais c'est vrai que ce qui m'intéresse avant tout, c'est de composer, quoi.
Est-ce que ça t'empêche ou est-ce que ça te fait dire, je vais faire le moins possible de reprises sur scène, par exemple, ou est-ce que, au contraire, sur scène, tu te laisses aller de temps en temps à faire des covers ?
Ouais, non, ça m'arrive. Après, tu sais, ça dépend des configurations. Oui. Si c'est une heure en club ou en plusieurs sets, où t'as plus le temps. Effectivement, ouais, j'en fais aussi quelques-uns, ouais, complètement. Ouais, ouais.
Mike Green a composé le titre d'entame de ton disque qui s'appelle I Should Be Glad. Comment s'est passée la collaboration avec lui ? Vous aviez joué pas mal de temps ensemble déjà ?
Ouais. Alors, en l'occurrence, sur ce morceau-là, il a écrit le texte, en fait.
Ouais.
Moi, j'ai composé la musique. Mais en fait, c'est un titre qu'il ne connaissait pas, si tu veux. C'est plus moi qui lui ai demandé si je pouvais utiliser ce texte que j'avais, par ailleurs, dans son répertoire, pour coller à ce morceau. Et ça s'est pas fait. Il n'a pas écouté le morceau et écrit les paroles, si tu veux, pour être exact.
Et la collaboration, alors, comment est-ce que vous avez réussi à coller son texte et ta musique ? Vous y avez travaillé ensemble ou séparément ?
Non, pas du tout. En fait, c'est juste, de prendre sous texte et moi je l'ai calé par rapport à ma compo, ça s'est fait juste comme ça, quoi, en fait, voilà.
Say I'm not dreaming. No, I'm
Dans le titre Mondo Oscuro, tu établis un état des lieux de notre planète. Quelle est l'issue, Lorenzo, de notre action sur la nature, selon toi ?
C'est mal barré. Tout ça. Et c'est vrai que dans ce morceau-là, bon, je dénonce pas que ça, mais bon, je sais pas, enfoncer des portes ouvertes, tout le monde le sait, tout ça, hein, que ça va mal à ce niveau-là, et puis pas qu'à ce niveau-là, l'humain est en train de vraiment de marcher sur la tête, quoi.
Oui.
Voilà, en gros. Hein.
Quand tu vois des panneaux à l'envers sur la route, tu te dis, ils ont bien fait, quoi, il faut prendre conscience.
C'est ça. Oui,
c'est une chanson optimiste ou pessimiste, Mondo Oscuro ?
Non, c'est assez pessimiste quand même, ce morceau. Un monde obscur, en fait, un Mondo Oscuro, c'est voilà.
Mais oui.
Voilà, c'est pas terrible, quoi.
Yeah.
À la fin de cet album figure le titre Jeff is Gone. Je voulais savoir quelle a été l'importance pour toi de Jeff Beck dans le développement de ta propre approche musicale.
Ah, c'est le... Moi, quand je pense Jeff Beck, je pense son, quoi. Au-delà de ce qu'il jouait, effectivement, tu vois, tout à l'heure, on parlait de pouvoir être identifié tout de suite à un son, à un style. Bah, lui, je crois que c'est l'exemple peut-être le plus flagrant. Et,
oui.
Hein, peut-être lui, puis B.B. King, quand il fait ses deux premières notes, quoi.
Ah, c'est ça qui est fou, c'est B.B. King, tu as raison.
Ouais, ouais.
Les deux premières notes, tu sais que c'est lui.
Bah ouais.
Forcément.
Bah, oui, c'est,
voilà. Mais toi, c'est
et
pareil.
Jeff Beck,
hein.
Ouais. Et Jeff Beck, j'ai toujours, voilà, j'ai toujours adoré parce que c'est un guitariste. J'aime beaucoup les guitaristes qui me surprennent, quoi. On s'attend pas. Il peut nous surprendre. Et lui, il travaille beaucoup tellement sur le son. C'est un guitariste qui a exploité au maximum le son que peut sortir une Strat. C'est lui, quoi.
Ouais.
Hein, c'est assez hallucinant. Et
qu'est-ce que tu penses voilà, qu'il a laissé à la musique, Jeff Beck? Est-ce que ça pourrait être le même héritage qu'un certain Jimi Hendrix ou d'autres que tu aurais en tête?
Ah, écoute, Jimi Hendrix, peut-être qu'il a vraiment révolutionné, et d'ailleurs, en premier lieu, je pense, le son hein, de la guitare à l'époque. Jeff Beck, ce que je trouve vraiment fort, très fort, c'est en fait qu'il chantait pas, quoi. Tu vois, c'est à travers sa guitare, faire que de l'instru et capter les gens comme il le captait, c'est incroyable. Et c'est pas du jazz, hein. Il y avait un peu du mélange, mais c'est tellement puissant, tellement profond, quoi. Tu peux pas rester indifférent, insensible à cette puissance, quoi, en fait.
Cette démarche, Lorenzo, que tu as eue d'enregistrer Jeff Is Gone, moi, ça me rappelle aussi Gary's Gone, que Fred Chapelier a enregistré pour Gary Moore. Pour moi, ça participe un petit peu du même état d'esprit, l'amour pour un autre musicien et le fait de jouer à la manière d'eux et pas de reprendre un morceau d'eux.
Complètement, ouais.
Ouais, c'est je vous compare tous les deux à ce niveau-là.
Bah, écoute, ça me va, hein. ouais, la démarche est semblable, c'est vrai. J'avais pas fait attention à ça, mais complètement, je pense que Fred a voulu aussi rendre hommage à Gary Moore et puis en jouant dans l'esprit, dans le style, mais avec ses notes à lui, voilà. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire aussi, hein, voilà, modestement.
La modestie qui t'honore d'ailleurs sur l'album, c'est pas écrit Lorenzo Sanchez, c'est écrit Lorenzo Sanchez Band. Ça, c'est quelque chose auquel tu tiens particulièrement ?
Ouais, parce que ça a quand même été un travail de groupe pour finaliser tout ça, quoi. Moi, j'ai composé, mais quand on est tout seul et on se fait ses maquettes, on fait la trame principale, on construit les morceaux, on fait quand même l'essentiel, c'est sûr. Mais il n'y a rien qui se fait s'il n'y en a pas de musicien pour travailler, pour échanger. Ils te donnent des idées, ils te disent tel endroit peut-être 4 mesures plutôt que 2, etc. Des trucs auxquels tu n'avais pas forcément pensé et qui viennent améliorer tes morceaux, quoi. Donc j'ai voulu les inclure davantage sur cet album, quoi, en fait.
Alors on va rappeler le nom des musiciens, donc Philippe Dandrimon à la basse, Stéphane Rinaldi à la batterie, et puis toi-même Lorenzo Sanchez, guitare, chant et chœur, et puis également au chœur on trouve Lou Sanchez.
C'est mon fils.
Et voilà. C'est et donc fils, il participe sur 3 morceaux, hein. Il est présent, il est également musicien, en dehors de faire des chœurs.
Oui, pas professionnel, mais c'est ce qu'il veut faire, et multi-instrumentiste et compositeur, il a une voix de crooner, donc j'ai utilisé sa voix grave pour mettre sur certains morceaux dans les chœurs.
Ça, c'est super,
pouvoir très jouer. C'est sympa de faire ça, quoi.
Ben oui, jouer avec ses propres enfants, mais moi, ça m'a toujours fasciné.
Ouais. Ouais, ils sont tous musiciens, amateurs, génial. Mais ils jouent tous.
Combien d'enfants en tout?
Écoute, 3 enfants, les 3 ont fait des bœufs.
C'est génial. puisqu'on est sur les protagonistes de l'album, je trouve Mick Tocro également. Quel était son rôle dans la production de cet album?
Un rôle très très important. Mick, quand on s'est vu sur un concert et on parlait de l'album, et j'avais besoin de faire de masteriser l'album dans des bonnes conditions. Et on en a parlé, il m'a proposé de le faire. Et c'est exactement ce que je voulais, parce que en plus Mick, voilà, c'est cette école, qui connaît bien le son que toi tu veux avoir quand tu demandes de faire un master, quoi, tu vois. C'est exactement ce que je voulais, on a collaboré, il m'a donné vraiment un très gros coup de main là-dessus, vraiment je le remercie 1000 fois, quoi.
Et ça permet aussi, Lorenzo, d'avoir une oreille extérieure, quelqu'un qui n'est pas dans le groupe et qui va pouvoir te dire, ah là attention, là à un moment donné il y a ci, il y a ça.
Oui, complètement, en termes musical lié à ce qu'il est, non là il n'est pas intervenu, mais par rapport au son en l'occurrence.
D'accord, voilà.
Para algo cambiar.
puisqu'on est sur les noms, il y a également dans la liste des remerciements, qui est assez longue, il y a également le nom de Nadège Dumas, qui est l'épouse et la saxophoniste de Bonne Épice. Ouais. Pour quelle raison, Nadège Dumas?
Bah, parce que on a travaillé ensemble en amont par rapport à Rock'n'Roll et Dixie Frog, parce que Bonnie est aussi chez Rock'n'Roll et Dixie Frog. Il fallait qu'on ait un échange sur pas mal de choses. Elle nous donnait un grand coup de main, quoi, en tous les cas. Quoi.
Mmh. Ouais. Et puis, je voulais savoir aussi, pour compléter toutes ces questions par rapport à tout le monde qui travaille avec toi, quel est le rôle précis de Marie Sanchez Hernandez, ton épouse, dans ta carrière?
Fondamental. Elle s'occupe de la BBB Association, travaille, fait du booking pour le groupe, et aussi, travaille pour d'autres artistes aussi. Hein.
C'est toujours l'association BBB, c'est ça?
Complètement, ouais. On a programmé depuis 20 ans, programmé sur le chemin du blues. Bon, là, récemment, c'est un peu à l'arrêt, mais. Et donc, elle s'est occupée du booking et surtout de cet album, quoi, de Blue Avenue. Mmh.
Et BBB, les trois initiales BBB, ça veut toujours dire Brachet Blues Band, ou c'est complètement autre chose?
Non, mais vas-y. Non, au départ, on l'avait pris comme ça parce que c'était, oui. C'est né justement le groupe à l'origine, mais non, c'est peut-être Blues, hein, plutôt, de toute façon.
D'accord.
D'ailleurs, on fêtera les 30 ans de l'association l'année prochaine.
D'accord. Alors, 95-2025.
J'espère. Voilà.
Thank you.
Lorenzo Sanchez, quels sont tes rapports avec les nouveaux boss du label Dixie Frog?
Ah ben, c'est une collaboration qui m'a apporté beaucoup. C'est encore frais parce que l'album est sorti il y a un mois et demi, hein, mais travailler avec Sophie Louvet, Bruno Labbatique, ils sont les attachés de presse que, dans le milieu blues, sont très connus quand même.
Ils sont connus et très efficaces, il faut le souligner.
Et très efficaces, et voilà, et je suis content parce que c'est diffusé dans pas mal de radios, même à l'étranger. J'ai des contacts, donc c'est diffusé pas mal en Espagne en ce moment aussi, donc voilà, j'espère que ça m'apportera. Ben, tout simplement, la seule chose qui vraiment m'intéresse, moi, c'est de faire de la scène. Donc, comme tu l'as gentiment dit tout à l'heure, je suis de 1960, donc tu sais quel âge j'ai. Et donc, il est temps pour moi aussi. J'ai vraiment envie de partager cet album sur scène, quoi. En trio, ou alors je me produis aussi en quartet avec un deuxième guitariste, l'excellentissime Jérôme Cornet.
Ah, Jérôme Cornelis, le frère de Damien, ouais. Oui, bien sûr.
Voilà.
Ouais. Je voulais savoir, là, on arrive à une question très générale, et tu n'es pas obligé de me répondre, comme toutes les précédentes d'ailleurs, Lorenzo. Quelle trace souhaiterais-tu laisser dans l'histoire du blues français?
Oh, j'ai aucune prétention à ce niveau-là. Je ne sais pas quoi te répondre. Franchement.
Ton truc, c'est de te produire sur scène, voilà, de produire ta musique, c'est ça l'objectif premier, on a bien compris ça, en tout cas.
Échanger avec les gens, quand tu fais de la scène, c'est aussi, et peut-être, des fois, c'est peut-être même plus important, enfin, peut-être j'exagère un peu, mais c'est de rencontrer des gens, quoi. Moi, c'est quelque chose qui quand t'as fait un bon concert, t'as rencontré des gens, tu te sens vachement bien, quoi, après, quoi, en fait, donc, c'est vraiment la meilleure des thérapies, quoi. Jouer et rencontrer des gens, quoi, le public, quoi.
Voilà, les rencontres, le partage, on a bien compris cet esprit qui t'anime depuis le début, finalement, tu fais de la musique avant tout pour les gens, pour les autres, c'est ça?
Bien sûr, enfin, de fait, un musicien, il joue déjà pour lui, mais parce que c'est une nécessité, on va dire, presque organique, quoi, je sais pas comment le dire. Enfin,
tu vois, je vois très bien,
il joue déjà pour lui, c'est un besoin, et les gens écoutent et rendent aussi de l'énergie, c'est génial, quoi.
C'est pour ça que ça a sûrement été, comme pour beaucoup, très difficile pour toi, cette période du Covid, le confinement, etc. Ça a dû être un cauchemar, non?
Ouais. C'était pas terrible, mais d'un autre côté, ça m'a obligé comme gênant, c'est que comme on était confinés, comme beaucoup d'artistes, c'est là que j'ai composé l'album, en fait, facilement.
Ça a été quand même un moment de créativité, tu as mis ça.
Ouais, complètement, ça faisait passer les journées bien, et puis voilà.
Lorenzo, j'en arrive à d'autres questions ouvertes. Faites celle-ci, tout d'abord, quel message souhaiterais-tu envoyer aux auditeurs de l'émission? Les gens qui écoutent Sweet Home Chicago, les gens qui t'écoutent en ce moment, qu'est-ce que tu voudrais leur dire?
Peut-être qu'il faut aller au concert, il faut soutenir. Je parle pas forcément que pour le blues. Hein. Il faut que la musique soit vivante et qu'ils viennent et qu'ils sortent pour voir des concerts. Et j'ai envie qu'ils n'hésitent pas à acheter mon album aussi. Voilà.
Bien sûr. Alors, on en arrive au projet. Lorenzo, l'album est sorti il y a 2 mois. Les projets pour la suite de cette année 2024 et après, donc on a bien compris, défendre ce disque sur scène. Il y a déjà des choses programmées pour la suite?
Alors, oui, il y a quelques dates intéressantes qui arrivent. Et bon, maintenant, on est beaucoup dans le démarchage aussi, notamment, on s'y retrouvera certainement, Marc, c'est à Cognac. Hein, donc moi,
exactement.
Je joue le 5 et le 6 juillet à Cognac, le 5 en solo et le 6 en trio.
Excellent.
Voilà, donc je suis très content et je remercie Michel de m'avoir fait confiance là-dessus parce que c'était pas évident et ça va être une joie de jouer là-haut. Et puis aussi le 27 juillet à Reims, à Jazz, ça s'appelle, c'est Jazz au Boulingrin à Reims. Voilà, on se produira en quartet avec Jérôme Cornelis.
Très bien, on va noter et redire ces deux dates-là, 5 et 6 juillet à Cognac. Et puis 27 juillet à Reims.
18 juillet à Musique au détour des tours à Saint-Jean-d'Angély. Ouais.
C'est le jour de mon anniversaire, le 18 juillet.
Ah bah,
merci.
Si je m'en rappelle, je te le souhaiterais. je ne suis pas là.
Voilà, tous ces projets qui vont arriver pour toi cet été, Lorenzo. Et puis moi, je souhaite que cet album Blue Avenida, Lorenzo Sanchez Band, soit aussi bien distribué en France qu'il va l'être en Espagne. Et puis longue vie, bien sûr, à ta formation et à ta carrière, Lorenzo. Merci pour tout. Merci pour ta disponibilité, ta gentillesse. gentillesse, ton talent et ton humilité aussi. Ça, c'est une denrée précieuse, je trouve, de nos jours.
Bah, c'est moi qui te remercie, Marc. Hein. C'était très sympa d'échanger avec toi. Et puis, j'espère qu'on se recroisera très vite.
Bah, le 5 juillet, normalement. Hein? Hein, si...
Eh ben, super.
Si Dieu le veut, comme on dit parfois.
Ouais.
Merci, Lorenzo. Et à très bientôt.
À
on continue d'écouter cet album, bien sûr, sur le 666 dans Sweet Home Chicago. Salut, Lorenzo. À bientôt.
Salut.
Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir. Voilà, c'était cette interview avec Lorenzo Sanchez, quelques extraits hors discographie avec, vous l'avez reconnu, Ry Cooder, Paris, Texas, Derek Trucks, Sweet Inspiration, Randy Garibay avec You've Loved That Loving Feeling, avec également I'm Going Home de Tears After version Woodstock en 1969, Miguel M et le Brachet Blues Band, I've Got a Problem Baby, et puis Biter Smith, You Don't Know Me Mary, ainsi que Fred Chapelier pour Gary's Gone, et puis quelques extraits de ce Blue Avenida avec I Need Your Love, Should Be Glad, Mondo Oscuro, Jeff Is Gone, UA et Humos. On termine avec quelques mesures de ce titre Taj, extrait toujours de Blue Avenida de Lorenzo Sanchez. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec trois nouveaux invités, Jérôme Laurentin pour sa carrière et son actualité, Chris Berson également dans le cadre des sorties de bain, et puis le numéro 48 de My Rockers avec Sylvie Nabé, Little Queenie. Salut, bye bye.